Et par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir dans le chic studio de Canalem sur la rue Sherbrooke maintenant ce 14 juin pour vous présenter les paractualités avec aujourd'hui les titres. La maison Jean-Eudes de Bergeron à Alma, volonté gouvernementale oui mais pas d'engagement. Nous allons recevoir José Boyer qui est agente de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, au sujet des différentes difficultés rencontrées dans les transports en commun de la STM pour les personnes non-voyantes. La STO, donc là nous sommes en Ontario, veut trouver un modèle plus adapté à Ottawa pour le futur. Et puis innovation, la montre suisse qui parle aux aveugles. Une autre entrevue, cette fois-ci en studio avec Marie-Ève Veilleux de Québec Accessible. Nous parlerons du lancement du site web du comité handicap culture sourde et société sans barrière du Forum mondial suite au Forum mondial 2016. Et puis aussi aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, une pompière Asperger qui sensibilise ses collègues à l'autisme et tennis handisport en France. Ils sont vainqueurs de Roland-Garros, des Français. Ils ont été complètement négligés. Le cri du cœur d'un internaute qui va faire, on l'espère, bouger les choses. Alors, une volonté, mais pas d'engagement. C'est d'après un texte de Jean-Marc Salvet paru dans la presse ce matin. Des résidents de la maison Jean-Eudes Bergeron à Alma ont fait le déplacement jusqu'à Québec avec des proches en dépit des difficultés liées à leur handicap. Le groupe est venu réclamer une intervention financière d'urgence au premier ministre Philippe Couillard et à la ministre Lucie Charlebois. Une intervention visant à permettre leur maintien dans cette résidence. Il manquerait 25 000 $ par mois pour assurer son fonctionnement, sa survie. On est très bien là où on est. J'ai fait des promesses à mes amis. S'il le faut, je vais m'enchaîner à notre bâtisse, a déclaré Ginon Lebel, porte-parole des résidents de la maison Jean-Eudes Bergeron, aux côtés des députés péquistes Alexandre Cloutier et Dave Turcotte. Monsieur Lebel, âgé de 43 ans, vit avec la dystrophie musculaire. Il a besoin d'une aide respiratoire. Les grilles de classification de l'administration gouvernementale ne correspondent pas aux besoins, a dénoncé Alexandre Cloutier en pressant le gouvernement de créer de nouvelles cases s'il le faut. C'est une aberration du système, selon lui. Non seulement ils ne veulent pas vivre en CHSLD, où il en coûterait d'ailleurs plus cher à l'État, mais ils veulent continuer à vivre à leur résidence, qui est un milieu de vie exceptionnel, a-t-il dit. En 11 ans de vie parlementaire, il y a rarement un dossier qui est venu me chercher autant que la maison Jean-Eudes Bergeron, a déclaré M. Cloutier. Le Premier ministre est aussi sensible que moi à la situation de ces personnes qui ne veulent pas déménager, a indiqué la ministre Lucie Charlebois. Il n'y a personne qui souhaite qu'elles aillent en CHSLD. Et je vous le dis, ça n'arrivera pas. C'est clair là, ça n'arrivera pas qu'elle soit en CHSLD, a déclaré Mme Charlebois, qui s'est dit prête à ajuster les ressources. Mais encore faut-il parvenir à une entente avec le propriétaire de la résidence, a-t-elle expliqué. À défaut d'y parvenir, les personnes concernées devront déménager dans d'autres ressources intermédiaires de la région. Ginon Lebel a quitté l'Assemblée nationale sans avoir obtenu de garantie, mais il a dit rentrer chez lui avec une espérance, un espoir que son appel soit entendu. En soirée, le cabinet de la ministre Lucie Charlebois a fait savoir que le financement de la maison Jean-Eudes Bergeron serait assuré au moins pour les mois de juillet et août, le temps de travailler sur la suite des choses. Le message est clair. Pour l'instant, les gens restent là où ils sont, a confirmé et affirmé M. Couillard. On va travailler pour trouver des solutions dans la région pour des soins dignes, des soins de qualité pour ces personnes qui ont besoin de toute la solidarité des Québécois. On va tout faire pour trouver une solution à la maison Jean-Eudes Bergeron, a renchéri Mme Charlebois. La résidence est flambant neuve, elle vient juste d'être construite, elle est fonctionnelle, ils l'aiment, c'est leur milieu de vie, a dénoncé M. Cloutier. Tout ce qui manque, c'est 25 000 $ par mois. Je ne peux pas croire qu'on va fermer une résidence pour 25 000 $ par mois. Le député de la coalition Avenir Québec, oui, François Paradis, a lui aussi demandé au gouvernement d'empêcher la fermeture de l'établissement. C'est leur chez-soi, a-t-il dit. Si le gouvernement libéral n'intervient pas, si le Premier ministre continue à ne pas intervenir, ces 20 résidents seront bientôt forcés de déménager. Leur maison va fermer ses portes. Il reste 17 jours. Madame Josée Boyer est agente de développement et de communication au RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Il y a eu récemment une sorte de thé-rencontre au cours duquel les membres du RAM ont pu discuter de leur expérience en tant qu'utilisateurs du transport adapté de la société Le Transport de Montréal et aborder ensemble différentes difficultés et des difficultés. Il y en a, n'est-ce pas, Madame Boyer? Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui au téléphone pour pouvoir parler de cette rencontre. Elle a eu lieu quand, cette rencontre, Madame Boyer?
La rencontre a eu lieu le 14 mai dans nos locaux. Mm-hmm. Alors, donc, on a discuté de différentes problématiques au transport adapté de Montréal.
Oui.
On a discuté de CIRTA. CIRTA, c'est qu'on peut réserver notre transport par Internet.
Oui, oui, oui.
Mais malheureusement, nous, on ne peut pas parce que le lecteur d'écran n'est pas accessible.
Eh oui.
Ça fait que c'est malheureux.
Qu'on n'ait pas encore une fois en 2017 pensé à ça, Seigneur.
Oui, c'est ça. Puis surtout, c'est tout nouveau. Il aurait dû y penser... Quand ils l'ont conçu.
Mais... Depuis longtemps, hein, c'est ça. Dites-moi, oui, est-ce que c'est la première fois que vous vous réunissez comme ça pour évoquer des problèmes et trouver des pistes de solutions?
Non, fait au moins une à deux fois par année.
Une à deux fois par année.
Ce qui se passe, on a besoin du pouls des membres.
Oui.
Parce que nous, on n'est pas dans le transport adapté, on ne vit pas les problématiques. Fait qu'on invite les membres à venir nous en parler. Mm-hmm. Puis les membres, nécessairement, ils font pas nécessairement plainte parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur d'en faire.
Oui.
Fait que en étant un groupe de discussion comme ça, ben ils sont moins peureux.
Ils sont moins peureux d'en parler. De toute façon, on le sait bien, il faut se réunir, hein, c'est ce qui fait la force. Hein.
Oui, c'est ça. On a parlé aussi des gens qui arrivent trop d'avance à la destination. Ils demandent une plage horaire. Ils ont une plage horaire mettons, ils demandent d'arriver là à 10 heures.
Oui.
Ils arrivent à, genre, 8h45.
Ah, mon Dieu, oui, d'accord.
D'avance.
Oui, oui, oui. C'est parce que, à ce moment-là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut que ça fasse l'affaire du chauffeur et pas l'affaire de la personne qui est chauffée, si vous me permettez l'expression.
Oui, c'est ça. Puis c'est le logiciel aussi qui...
OK, d'accord.
Qui n'est pas tout à fait adéquat aussi.
Mm-hmm.
On a parlé aussi des chauffeurs qui arrivent d'avance quand ils ont terminé l'activité. Ben, les chauffeurs arrivent d'avance, genre 15 minutes d'avance. Fait que ils stressent les gens, puis faut qu'ils se dépêchent, puis c'est ça.
Mm-hmm. Dites-moi, est-ce qu'ils sont gentils de façon générale, les chauffeurs?
De façon générale, oui.
Bon.
Oui. On a parlé justement de la formation des chauffeurs.
Oui, oui.
Là, on est en train, c'est tout nouveau. On a un comité avec la STM.
Oui.
Le RUTA et le RAM et d'autres organismes aussi qui ont des problématiques aussi.
Mm-hmm.
Dans ce comité-là, justement, on discute de la formation des chauffeurs parce qu'il peut avoir les formateurs peuvent avoir oublié des petits oublis, puis c'est correct. On est en collaboration avec la STM.
Là. Des petits oublis comme...
La technique de guide
pour une déficience
visuelle, technique pour ceux qui sont en fauteuil roulant, pour les personnes intellectuelles aussi, quoi faire aussi, c'est pas toujours évident. Là. Fait que donc, on est en train de travailler avec eux autres. Surtout.
Avec la STM, donc, ils sont ouverts, ils ont envie d'améliorer quelque chose.
Exactement, ils sont très collaborateurs.
Oui, bon, alors, que ça fait plaisir d'entendre un propos, des propos optimistes par rapport à la STM.
Oui, c'est sûr qu'il y a des petites choses.
Oui, c'est clair.
Oui, c'est ça.
Bon, alors, il va y avoir Assemblée générale du RUTA à Montréal.
Oui, c'est demain le 15 juin.
Oui, ça
c'est
se passe.
C'est de 1h à 5h.
Oui.
Puis c'est ça. Je dois vous dire que dans le conseil d'administration, cette année, il y a 5 postes vacants. Alors, ceux qui sont intéressés à s'impliquer dans un conseil d'administration sont les bienvenus. C'est sûr, faut être membre du RUTA.
OK.
La carte de membre coûte 5 $, mais vous pouvez vous mettre membre dès demain, là. Il n'y a pas de
D'accord.
problème.
Et
On va vous recevoir quand même.
D'accord. Ça se passe où, Madame Boyer, s'il vous plaît?
Ça se passe au Carrefour communautaire de l'Entre-Jean. C'est 5600 rue. Attendez.
Oui, ça va, j'attends, je vous écoute, je prends en note parce qu'on va mettre ça sur notre fil de nouvelles, sur notre site.
5175 rue Lafond.
Rue Lafond.
Oui, rue Lafond. Mais il faut s'inscrire, il faut appeler au RUTA.
OK. J'imagine qu'il y a un site Internet pour le RUTA.
C'est mieux, oui, c'est Internet, oui. Mais c'est mieux d'appeler.
C'est mieux d'appeler? Bon,
oui.
Prenons le temps, donnons le numéro en onde, Madame Boyer, si vous l'avez.
514.
Oui.
255.
Oui.
0765.
65. Alors, je vais le répéter.
Alors,
tout
vous...
doucement pour les auditeurs. 514-255-0765. Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Boyer?
Oui, c'est beau, c'est venu en grand nombre.
D'accord.
Puis Christelle se fera une joie de prendre votre inscription par téléphone.
D'accord.
Vous
D'accord, Madame Boyer, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin.
Ben, je vous remercie beaucoup à vous.
Et puis soyons optimistes avec la STM.
Oui.
Allez.
Merci.
Bonne
au
journée,
revoir.
Au revoir. De la STM à la STO, il y a quoi? 200 et quelques kilomètres? 250 kilomètres pour aller à Ottawa? Je ne sais pas vraiment. Mais la STO qui veut trouver un modèle plus adapté pour le futur, c'est un des éléments phares du nouveau plan stratégique de la STO adopté aujourd'hui par le conseil municipal de Gatineau, peut-on lire dans le journal larevue.com. Les grandes orientations du plan stratégique couvrent les années 2017-2026, mais les actions les plus concrètes sont pour 2017-2026. Alors, parmi les actions, la STO prévoit des projets pilotes, bon, comme par exemple le déploiement de supports à vélo pour les autobus ou des choses comme ça. Mais il y a aussi le transport à la demande. C'est une façon de voir le transport différemment en incluant d'autres modes de transport pour utiliser la méthode la plus efficace pour l'utilisateur, pour tous les utilisateurs, mentionne-t-on. Et c'est ce que mentionne Gilles Carpentier, le président de la STO. Toutes les sociétés de transport questionnent la mobilité urbaine intégrée. Le modèle d'horaire fixe sur des lignes fixes est performant en pointe, mais ça répond moins à la demande la fin de semaine et à l'extérieur des heures de pointe. Des partenariats pourraient donc être possibles avec d'autres partenaires. Le plan stratégique parle notamment de la facilité dans la société d'aujourd'hui de réserver facilement un taxi ou Uber. En termes d'achalandage, la planification stratégique prévoit une hausse de 1% par année d'ici 2020. Une innovation maintenant, là, figurez-vous, ça se passe en Suisse. On sait que la montre, l'horlogerie est suisse. Eh bien, cela continue. La montre suisse qui parle aux aveugles. C'est un papier, d'après un papier de Vincent Donzé, qui écrit « Déçu par les garde-temps asiatiques conçus pour les malvoyants, l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, l'UCBA, a fabriqué la première montre parlante et vibrante. Swiss made. » Évidemment, le mode vibratoire s'adresse aux personnes à la vue et à l'ouïe déficientes. Développée par des entreprises horlogères romandes, Acoustica a été produite à 1000 exemplaires. Les problèmes de qualité nous agaçaient régulièrement, qu'ils concernent la synthèse vocale, le boîtier, le bracelet ou la performance de la batterie, rapporte le chef de projet Stéphane Merker, chargé des moyens auxiliaires. Le principal défi à relever a été d'intégrer dans le boîtier non seulement un mouvement à quartz, mais aussi une batterie, un vibreur et un processeur de synthèse vocale en quatre langues. Rappelons qu'en Suisse, on parle quatre langues. Hein. Le français, bien évidemment, ben en tout cas trois langues, plus l'anglais dans les commerces, mais on parle le français, l'allemand ou l'italien, dépendamment de la région où on se situe. D'où l'idée des quatre langues dans cette montre. La difficulté d'orientation existe dans l'espace, mais aussi dans le temps, indique Carole Lagrange, chef du marketing à l'UCBA. La montre, c'est le principal accessoire vendu aux aveugles après la canne blanche. Il est important pour quiconque de savoir qu'il dispose d'un bel objet pratique à son poignet, même lorsqu'il ne voit pas bien ou pas du tout. Et elle dit, les petits détails font souvent toute la différence. J'ai l'habitude de m'adresser à elle, mais c'est souvent par téléphone. Alors là, je suis bien contente de l'avoir dans notre tout nouveau studio. Bonjour Marie-Ève Veilleux.
Bonjour, c'est plus facile de se déplacer.
C'est plus facile hein, de se déplacer. Alors Marie-Ève, ravie de vous recevoir ici une fois de plus. Je rappelle que vous êtes de l'organisme Québec Accessible. On va revenir un petit peu en arrière, on va revenir un petit peu sur le forum mondial qui a eu lieu en 2016 et dont nous avions d'ailleurs parlé ensemble hein, sur les ondes. Vous allez nous rappeler le pourquoi du forum et surtout quelle était sa mission finalement première.
Le forum social mondial a eu lieu donc en août 2016, donc oui. Il y a presque un an à Montréal. Ça a rassemblé, je dirais, 30 000 personnes à Montréal autour des enjeux sociaux. Et donc, on avait décidé d'inclure les enjeux entourant le handicap et la surdité dans ce forum social mondial-là, pour réfléchir ensemble dans
des solutions. À des solutions. Hein. Là encore, l'union fait la force, comme on dit toujours. Alors, du coup, il y a un site web qui est né un an plus tard. J'imagine qu'il devait avoir son utilité un an plus tard.
Exactement, ça a été long parce qu'on est tous bénévoles, donc c'est un petit peu à temps perdu. Mais dans le fond, pendant le forum social, il y a eu des activités qui ont été organisées, je dirais une quinzaine d'activités traditionnelles, des tables rondes, etc. Il y a aussi eu des activités dans un espace public, plus artistique et tout. On avait envie d'archiver ces activités, de créer une mémoire de ces activités-là, en quelque part pour que le public puisse y avoir accès, pour que les autres éditions du Forum social puissent avoir accès à ce qui s'est fait à Montréal en 2016.
Mémoire et témoignage, quoi. C'est important, il faut qu'il reste des traces de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site-là?
Mais c'est quand même encore une ébauche, mais on a mis des photos de l'événement, plusieurs photos, donc... la revue de presse aussi qu'on a eue grâce aussi entre autres à
Est-ce que vous, oui, mais c'est ça, mais en dehors de notre radio Canal M, vous avez eu quand même une bonne couverture.
Les médias spécialisés étaient au rendez-vous.
Bon.
Puis certains médias ont relayé, par exemple, le communiqué de presse qu'on avait sorti.
D'accord.
Aussi, on a aussi une page pour les activités qui se sont tenues. Donc, évidemment, j'invite les organismes qui ont organisé des activités à nous partager leurs photos, leurs témoignages, leurs commentaires. S'il y a eu aussi des suites à leur activité, par exemple, si on organise des choses par la suite, c'est super intéressant de voir ce qui s'est produit.
Et des succès, quoi. Des choses qui se sont bâties, qui ont... Est-ce que vous en connaissez, vous, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont, grâce à ce forum-là, qui ont vu le jour?
Oui, j'ai entendu dire que, par exemple, l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire avait parlé de l'éducation inclusive. Oui. Et là, récemment, il y a eu...
Le 1er juin.
Oui, exactement.
Une rencontre. Je ne sais pas
si le lien est direct, mais ça a sûrement contribué les réflexions qui ont entamé au Forum social.
Et puis donc, rapport des activités de chaque comité, de chaque groupe, on vient d'en parler, mais surtout, alors, il y a eu cette espèce de grande conférence avec la présentation de trois panélistes et c'est là où on a beaucoup entendu parler de ces deux mots qui sont relativement récents, que sont le capacitisme et l'audisme.
Exactement. Donc, il y a eu une grande conférence qui a été organisée le 12 août dernier et on a eu la chance de le filmer. Et pendant tous ces mois, j'ai fait les sous-titres. Donc, maintenant, ils sont disponibles. Ces vidéos-là sont disponibles sur Internet. On peut y voir un activiste américain, Lawrence Carter Long, qui est très inspirant dans son message de rassemblement, justement. On y voit aussi Laurence Parent, qui nous parle de sa recherche d'un terme français pour parler de discrimination envers les personnes handicapées. Et là, elle amène le capacitisme. Il y a aussi Pamela Witcher, qui est une activiste sourde, qui nous parle d'audisme, qui est comme la discrimination spécifique à la surdité, donc par rapport à la langue.
OK. Mais le capacitisme, et donc par extension l'audisme, ça va encore plus loin que la discrimination. C'est pas seulement que la discrimination, c'est arrêter de parler de nous comme des gens qui ne sont pas entiers, finalement, celui que je dise. Mm-hmm. Souvent, c'est ça qu'on entend.
C'est une hiérarchisation, si je peux dire, de la valeur de la personne basée sur son handicap. Donc, on voit la personne un petit peu moindre dans toutes les facettes de la société.
Oui, mais en même temps, souvent, j'entends, Marie-Ève Veilleux, vous-même, vous êtes en situation de handicap, j'entends quand même des gens... Par exemple, on a reçu ici en entrevue monsieur Julien Racicot, qui est un monsieur qui est en fauteuil aussi, qui va faire je ne sais plus combien de kilomètres au mois d'août entre Gaspé et Montréal. Mm-hmm. Il va faire 80 kilomètres par jour. Évidemment, c'est pour récolter des fonds, c'est pour récolter des signatures. Et lui, il est le premier à parler de courage, d'agir, de bouger, de faire des choses. Et je sais qu'il y a des choses comme ça. Laurence, par exemple, ça l'agace. Quand on parle, c'est vrai, non? Petit peu, tu sais, là, le côté, regarde, c'est pas du courage, il faut qu'on fasse des choses, quoi.
Mais c'est vrai que les personnes handicapées dans la société sont soit représentées comme des héros, qui surmontent l'adversité.
Et c'est
le
ça
sourire,
le capacitisme. Hein?
Ben, c'est entre autres ça aussi, c'est pas tout le monde qui a comme le sourire. Puis, ça oublie un petit peu, ça remet le poids à la personne, à l'intérieur personne, d'être une bonne personne pour surmonter, d'être forte puis d'être courageux. Mais ça efface par contre les problèmes que la société nous crée.
Mais oui, exactement. Mm-hmm. Exactement. Marie-Ève, est-ce que les choses bougent, vous pensez? Moi, j'ai l'impression quand même, parfois, je veux dire, bon, c'est peut-être aussi parce que nous, on est très, évidemment que c'est un sujet qui nous intéresse, puis on est très, très proche de vous, on essaie, donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'on en parle plus, mais... Mm-hmm.
C'est intéressant de voir les gens se rassembler et faire des choses pour changer les choses. Je pense que c'est la chose qui est importante, avoir des résultats concrets.
Bon.
Suivre ce qui se passe.
Alors, bravo pour le site. Mm-hmm. Et puis, encore une fois, encourageons tous les gens qui nous écoutent à eux-mêmes participer, non pas à la fabrication parce qu'il est né, mais à étayer ce site-là avec des informations. Mm-hmm. Vous l'avez appelé comment, d'ailleurs, le site?
Donc, le site, c'est handicapculturesourde.wordpress.com.
OK. Donc, c'est vraiment facile. Mm-hmm. Handicapculturesourde, tout ça en un seul mot, au singulier, .wordpress.com. Merci beaucoup, Marie-Ève Veilleux. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Au plaisir. Par actualité nationale, une pompière qui est Asperger sensibilise ses collègues à l'autisme. Elle s'appelle Courtney Mills. Elle est âgée de 21 ans. Elle est pompière volontaire à Truro, en Nouvelle-Écosse. Elle est Asperger, un syndrome compris dans les TSA, et elle espère éveiller la conscience des pompiers à la réalité des autistes. Ce syndrome est parfois caractérisé, on le sait, par une difficulté à s'engager dans des interactions sociales. Madame Mills, qui estime qu'il y a une technique à privilégier lorsque vient le temps d'intervenir en tant que pompier auprès de personnes autistes. En tant que premier répondant, certains d'entre eux ignorent les pompiers, donc comment agir avec des gens comme moi, et peuvent avoir une approche qui peut sembler rude, explique la jeune femme. Alors celle-ci a entrepris de parcourir la province où elle offre des présentations au sein des diverses brigades sur l'autisme. Elle propose des techniques d'intervention pour mieux agir auprès de ces individus. Alors, c'est une espèce de trousse qui, espère-t-elle, facilitera la tâche des pompiers qui doivent communiquer avec des personnes autistes. Un exemple, par exemple, lorsque des pompiers ont à rentrer dans une maison incendiée, elle dit que les personnes autistes ont tendance à se réfugier dans des endroits qui leur semblent sûrs. Alors, elle invite les pompiers à redoubler de vigilance lorsque vient le temps de fouiller ces résidences incendiées afin de s'assurer que personne n'est caché vraiment au fond d'un placard. Depuis le début de l'année, Mme Mills a effectué sa présentation auprès d'une vingtaine de brigades de pompiers en Nouvelle-Écosse. Nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu, et bien personne n'a parlé des vainqueurs français de Roland-Garros. Et du coup, il y a un individu qui a poussé un gros coup de gueule. C'est ce qu'on peut lire dans le HuffingtonPost.fr. Qui a dit que les Français n'ont pas vraiment brillé à Roland-Garros cette année? C'est le dernier en lice dont vous avez peut-être entendu parler, si vous suivez un petit peu les compétitions de tennis, et Gaël Monfils. Certains bleus ont pourtant été exceptionnels lors de ce championnat et ont remporté Roland-Garros. Vous n'en avez sûrement pas ou peu entendu parler, alors que ce sont des vrais champions. Imaginez, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio et désormais grand gagnant de Roland-Garros 2017, Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer sont les leaders dans la catégorie tennis handisport. Et c'est justement là que ça coince. Un internaute, Stéphane Girard, a publié un long texte sur son compte Facebook pour dénoncer le peu d'intérêt des médias pour le tennis handisport et en particulier sur cette finale qui a eu lieu le 10 juin dernier. Plus de 65 000 personnes ont suivi sa demande de partage de la publication afin qu'un maximum de personnes soient informées de cette superbe victoire française à Roland-Garros et qu'ils bénéficient de la reconnaissance qu'ils méritent. Car ces sportifs professionnels de haut niveau sont exemplaires et n'ont rien à envier aux autres tennismen français, a-t-il déclaré en substance. Interrogé par le HuffPost, Nicolas Pfeffer raconte ne pas connaître l'internaute à l'origine de ce coup de gueule, mais il assure que c'est de ce genre de choses dont les joueurs de tennis handisport ont besoin. Alors que le joueur a ressenti une immense joie après avoir gagné, évidemment, cette finale, cette manque de reconnaissance a des conséquences directes, nous rappelle-t-il, notamment pour les sponsors, parce que si personne n'est au courant, eh bien le sponsor ne va jamais les aider financièrement à franchir d'autres étapes. Félicité par la ministre des Sports, Laura Flessel, Nicolas Pfeffer raconte ne pas avoir eu l'occasion d'évoquer le sujet avec elle. Il reste néanmoins positif quant à l'évolution de la perception du tennis handisport en France depuis 3 mois. Nous sommes gérés par la Fédération française de tennis, la FFT, et plus par la Fédération française handisport, donc je pense que les choses vont changer. Et puis pour la petite histoire, eh bien sachez que Stéphane Houdet et Monsieur Pfeffer jouent ensemble depuis fin 2014. C'est une immense joie de jouer ensemble, on est vraiment une équipe soudée, on se connaît très bien sur le terrain et c'est ce qui fait la différence. On a vraiment un jeu complet ensemble, nous sommes un mur, assure Nicolas Pfeffer. Les deux champions ont remporté à Roland-Garros leur premier titre en commun à Paris. La Fédération québécoise de l'autisme s'associe à des partenaires afin d'organiser un concours de dessin. Le dessin gagnant sera utilisé pour l'étiquette d'une nouvelle bière, dont une partie des profits servira à soutenir des projets qui s'adressent aux personnes autistes et à leurs familles. Alors le thème du concours, c'est l'autre monde. Qui peut participer? Eh bien, les personnes autistes de 18 ans et plus. Les règles du concours, utilisez sa créativité. Merci de faire parvenir vos œuvres à direction. @autisme.qc.ca. Si vous allez sur le site de la Fédération québécoise de l'autisme, vous aurez toutes les informations. C'était les Paractualités et Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne journée. À demain.